Chapitre 6e. La peine de mort. L'automobile de Lupin constituait, outre un cabinet de travail muni de livres, de papier, d'encre et de plumes, une véritable loge d'acteurs, avec une boîte complète de maquillage, un coffre rempli de vêtements les plus divers, un autre bourré d'accessoires, parapluies, cannes, foulards, lorgnons, etc. Bref, tout un attirail qui lui permettait en cours de route de se transformer des pieds à la tête. Ce fut un monsieur un peu gros, en redingote noire, en chapeau haute forme, le visage flanqué de favoris, le nez surmonté de lunettes, qui sonna vers 6 heures du soir à la grille du député Daubrecq. La concierge le conduisit au perron où Victoire, appelée par un coup de timbre, apparut. Il lui demanda « Monsieur Daubrecq peut-il recevoir le docteur Verne ?»« Monsieur est dans sa chambre et à cette heure-là, faites-lui passer ma carte. » Il inscrivit en marge ces mots de la part de Madame Mergy, et insistant « Tenez, je ne doute pas qu'il ne me reçoive. Mais, objecta Victoire, « Ah ça, mais vas-tu te décider, la vieille, en voilà du chichi !» Elle fut stupéfaite et bredouilla. « Toi, c'est toi ?»« Non, c'est Louis XIV. » Et la poussant dans un coin du vestibule, « Écoute, aussitôt que je serai seul avec lui, monte dans ta chambre, fais ton paquet à la 642 et décampe. « Quoi ? Fais ce que je te dis. Tu trouveras mon auto plus loin sur l'avenue. Allez, oust, annonce-moi. J'attends dans le bureau. » « Mais on n'y voit pas. Allume. » Elle tourna le bouton de l'électricité et laissa Lupin seul. « C'est là, » songeait-il en s'asseyant, « c'est là que se trouve le bouchon de cristal. À moins que Daubrecq ne le garde toujours avec lui. Mais non, quand on a une bonne cachette, on s'en sert, et celle-ci est excellente, puisque personne, jusqu'ici... » De toute son attention, il scrutait les objets de la pièce, et il se souvenait de la missive que Daubrecq avait écrite à Praville. « Apportez ta main, mon bon ami. Tu l'as touchée un peu plus, et ça y était. » Rien ne semblait avoir bougé depuis ce jour. Les mêmes choses traînaient sur la table, des livres, des registres, une bouteille d'encre, une boîte à timbre, du tabac, des pipes, toutes choses qu'on avait fouillées et auscultées maintes et maintes fois. « Ah, le bougre !» pensa Lupin. « Son affaire est rudement bien emmanchée. » Ça se tient comme un drame du bon faiseur. Au fond, Lupin, tout en sachant exactement ce qu'il venait faire et comment il allait agir, n'ignorait pas ce que sa visite avait d'incertain et de hasardeux avec un adversaire d'une pareille force. Il se prouvait très bien que Daubrecq resta maître du champ de bataille et que la conversation prit une tournure absolument différente de celle que Lupin escomptait. Et cette perspective n'était pas sans lui causer quelque irritation. Il serait dit un bruit de pas approchait. Daubrecq entra. Il entra sans un mot, fit signe à Lupin qui s'était levé de se rasseoir, s'assit lui-même devant la table, et regardant la carte qu'il avait conservée, « Le docteur Verne. »« Oui, monsieur le député, le docteur Verne, de Saint-Germain. »« Et je vois que vous venez de la part de Madame Mergy, votre cliente, sans doute. »« Ma cliente occasionnelle. Je ne la connaissais pas avant d'avoir été appelée auprès d'elle tantôt dans des circonstances particulièrement tragiques. » Elle est malade. Madame Mergy s'est empoisonnée. Hein ? Daubrecq avait eu un sursaut et il reprit, sans dissimuler son trouble. Hein ? Que dites-vous ? Empoisonnée ? Morte, peut-être ? Non, la dose n'était pas suffisante. Sauf complication, j'estime que Madame Mergy est sauvée. Daubrecq se tut et il resta immobile, la tête tournée vers Lupin. Me regarde-t-il ? A-t-il les yeux fermés ? Se demandait Lupin. Cela le gênait terriblement de ne pas voir les yeux de son adversaire, ses yeux que cachait le double obstacle des lunettes, et d'un lorgnon noir, des yeux malades, lui avait dit Madame Mergy, striés et bordés de sang. Comment suivre, sans voir l'expression d'un visage, la marche secrète des pensées? C'était presque se battre contre un ennemi dont l'épée serait invisible. Daubrecq reprit au bout d'un instant. Alors Madame Mergy est sauvée, et elle vous envoie vers moi. Je ne comprends pas bien. Je connais à peine cette dame. Voilà le moment délicat, pensa Lupin. Allons-y. Et d'un ton de bonhomie où perçait l'embarras de quelqu'un qui est timide, il prononça. Mon Dieu, monsieur le député, il y a des cas où le devoir d'un médecin est très compliqué, très obscur. et vous jugerez peut-être qu'en accomplissant auprès de vous cette démarche, bref, voilà. Tandis que je la soignais, Madame Hergy a tenté une seconde fois de s'empoisonner. Oui, le flacon se trouvait par malheur à portée de sa main. Je le lui ai arraché. Il y a eu lutte entre nous. Et dans le délire de la fièvre, à mots entrecoupés, elle m'a dit « C'est lui, Dobrec, le député, qu'il me rende mon fils. Dites-lui ça, ou bien je veux mourir. Oui, tout de suite, cette nuit, je veux mourir. » Voilà, monsieur le député, alors j'ai pensé que je devais vous mettre au courant. Il est certain qu'en l'état d'exaspération où se trouve cette dame, bien entendu, j'ignore le sens exact de ses paroles, je n'ai interrogé personne, je suis venu directement, sous une impulsion spontanée. Dobrec réfléchit assez longtemps et dit « Somme toute, docteur, vous êtes venu me demander si je savais où est cet enfant, que je suppose disparu, n'est-ce pas ?»« Oui. » « Et au cas où je le saurais, vous le ramèneriez à sa mère ?»« Oui. » Un long silence encore, Lupin se disait « Est-ce que par hasard il gobrait cette histoire-là »« La menace de cette mort suffirait-elle »« Non, voyons, ce n'est pas possible. » Et cependant, il a l'air d'hésiter. « Vous permettez ?» dit Dobrec en approchant de lui l'appareil téléphonique qui se dressait sur la table. « C'est pour une communication urgente. » « Faites donc, monsieur le député. » Dobrec appela. « Allô, mademoiselle, voulez-vous me donner le 822-19 ?» Il répéta le numéro et attendit sans bouger. Lupin sourit. « La préfecture de police, n'est-ce pas ? Secrétariat général. »« En effet, docteur, vous savez donc ?»« Oui, comme médecin légiste, il m'a fallu quelquefois téléphoner. » Et au fond de lui, Lupin se demandait « Que diable tout cela veut-il dire ?» Le secrétaire général, c'est Prasville. Alors quoi ? Dobrec plaça les deux récepteurs à ses oreilles et articula. Le 822-19. Je voudrais le secrétaire général, M. Prasville. Il n'est pas là ? Si, si, il est toujours dans son cabinet à cette heure-ci. Dites-lui que c'est la part de M. Dobrec. M. Dobrec, député. Une communication de la plus haute importance. Je suis peut-être indiscret, fit Lupin. Nullement, nullement, docteur. Assura Dobrec. D'ailleurs, cette communication n'est pas sans un certain rapport avec votre démarche. Et s'interrompant, Allô, monsieur Prasville ? Ah, c'est toi, mon vieux Prasville. Eh bien quoi, tu sembles interloqué. Oui, c'est vrai, il y a longtemps qu'on ne s'est vus tous deux. Mais au fond, on ne s'est guère quitté par la pensée. Et je m'amuse très souvent ta visite et celle de tes artistes, mais. N'est-ce pas ? Allô, quoi ? Tu es pressé ? Ah, je te demande pardon. Moi aussi, d'ailleurs. Donc, droit au but. C'est un petit service que je veux te rendre. Attends donc, animal, tu ne le regretteras pas. Il y va de ta gloire. Allô, tu m'écoutes ? Eh bien, prends une demi-douzaine d'hommes avec toi, ceux de la sûreté, plutôt, que tu trouveras à la permanence. Sauter dans des autos et rappliquer ici en quatrième vitesse. Je t'offre un gibier de choix, mon vieux. Un seigneur de la haute, Napoléon lui-même. Bref, Arsène Lupin. Lupin bondit sur ses jambes. Il s'attendait à tout, sauf à ce dénouement. Mais quelque chose fut plus fort en lui que la surprise. Un élan de toute sa nature qui lui fit dire, en riant, « Ah, bravo, bravo !» Dobrec inclina la tête en signe de remerciement et murmura, « Ce n'est pas fini. Un peu de patience encore, voulez-vous » Et il continua, « Allô, Prasville ?» « Quoi ? Mais mon vieux, ce n'est pas une fumisterie. Tu trouveras Lupin ici, en face de moi, dans mon bureau. »« Lupin, qui me tracasse comme les autres. »« Oh, un de plus, un de moins, je m'en moque. »« Mais tout de même, celui-ci met de l'indiscrétion. »« Et j'ai recours à ton amitié. Débarrasse-moi de cet individu, je t'en prie. »« Avec une demi-douzaine de tes sbires et les deux qui font le pied de grue devant ma maison, ça suffira. »« Ah, pendant que tu y seras, monte au troisième étage. » Tu cueilleras ma cuisinière. C'est la fameuse Victoire, tu sais, la vieille nourrice du sieur Lupin. Et puis tiens, encore un renseignement. Faut-il que je t'aime ? Envoie donc une escouade rue Chateaubriand, au coin de la rue Balzac. C'est là que demeure notre Lupin national, sous le nom de Michel Beaumont. Compris, vieux ? Maintenant, à la besogne, secoue-toi. Lorsque Daubrecq tourna la tête, Lupin se tenait debout, les poings crispés. Son élan d'admiration n'avait pas résisté à la suite du discours et aux révélations faites par Daubrecq sur Victoire et sur le domicile de la rue Chateaubriand. L'humiliation était trop forte, et il ne songeait guère à jouer plus longtemps les médecins de petite ville. Il n'avait qu'une idée, ne pas s'abandonner à l'excès de rage formidable qui le poussait à foncer sur Daubrecq comme le taureau sur l'obstacle. Daubrecq jeta une espèce de gloussement qui, chez lui, singeait le rire. Il avança en se dandinant, les mains aux poches de son pantalon, et scanda. « N'est-ce pas ? Tout est pour le mieux de la sorte. Un terrain déblayé, une situation nette. Au moins, l'on y voit clair. Lupin contre Daubrecq, un point, c'est tout. Et puis, que de temps gagné ! Le docteur Verne, médecin légiste, n'aurait eu pour 2 heures à dévider son écheveau, tandis que comme ça, le sieur Lupin est obligé de dégoiser sa petite affaire en 30 minutes, sous peine d'être saisi au collet et de laisser prendre ses complices. Quel coup de caillou dans la mare aux grenouilles ! 30 minutes, pas une de plus. D'ici 30 minutes, il faudra vider les lieux, se sauver comme un lièvre et ficher le camp à la débandade. Ah ah, ce que c'est rigolo. Dis donc, Polonius, vrai, t'as pas de chance avec Bibi Daubrecq, car c'était bien toi qui te cachais derrière ce rideau, infortuné Polonius. » Lupin ne bronchait pas. L'unique solution qui l'eût apaisé, c'est-à-dire l'étranglement de l'adversaire, était trop absurde pour qu'il ne préférât point subir, sans riposter, des sarcasmes qui pourtant le cinglaient comme des coups de cravache. C'était la seconde fois dans la même pièce et dans des circonstances analogues qu'il devait courber la tête devant ce Daubrecq de malheur et garder en silence la plus ridicule des postures. Aussi avait-il la conviction profonde que s'il ouvrait la bouche, ce serait pour cracher au visage de son vainqueur des paroles de colère et des invectives. À quoi bon ? L'essentiel n'était-il pas d'agir de sang-froid et de faire les choses que commandait une situation nouvelle ? « eh bien, monsieur Lupin, » reprenait le député, « vous avez l'air tout déconfit, voyons. Il faut se faire une raison et admettre qu'on peut rencontrer sur son chemin un bonhomme un peu moins andouille que ses contemporains. Alors vous vous imaginez que parce que je porte binocle et bésigle, j'étais aveugle, dame. Je ne dis pas que j'ai deviné sur le champ Lupin derrière Polonius, et Polonius derrière le monsieur qui vient m'embêter dans la baignoire du vaudeville, non. Mais tout de même, ça me tracassait. Je voyais bien qu'entre la police et Madame Hergy, il y avait un troisième larron qui essayait de se faufiler. Alors, peu à peu, avec des mots échappés à la concierge, en observant les allées venues de la cuisinière, en prenant sur elle des renseignements aux bonnes sources, j'ai commencé à comprendre. Et puis, l'autre nuit, ce fut le coup de lumière. Quoiqu'endormi, j'entendais le tapage dans l'hôtel. J'ai pu reconstituer l'affaire. J'ai pu suivre la trace de Madame Hergy jusqu'à la rue Chateaubriand d'abord, ensuite jusqu'à Saint-Germain. Et puis ? Et puis quoi ? J'ai rapproché les faits. Le cambriolage d'Anguin, l'arrestation de Gilbert, le traité d'alliance inévitable entre la mère éplorée et le chef de la bande, la vieille nourrice installée comme cuisinière, tout ce monde entrant chez moi par les portes ou par les fenêtres. J'étais fixé. Maître Lupin reniflait autour du poteau rose. L'odeur des 27 l'attirait. Il n'y avait plus qu'à attendre sa visite. L'heure est arrivée. Bonjour, Maître Lupin. Daubrecq fit une pause. Il avait débité son discours avec la satisfaction visible d'un homme qui a le droit de prétendre à l'estime des amateurs les plus difficiles. Lupin se taisant, il tira sa montre. Hé hé, plus que 23 minutes. Comme le temps marche. Si ça continue, on n'aura pas le loisir de s'expliquer. Et s'approchant encore de Lupin, tout de même, ça me fait de la peine. Je croyais Lupin un autre monsieur. Alors, au premier adversaire un peu sérieux, le colosse s'effondre. Pauvre jeune homme, un verre d'eau pour nous remettre. Lupin n'eut pas un mot, pas un geste d'agacement. Avec un flegme parfait, avec une précision de mouvement qui indiquait sa maîtrise absolue et la netteté du plan de conduite qu'il avait adopté, il écarta doucement Daubrecq, s'avança vers la table et à son tour saisit le cornet du téléphone. Il demanda « S'il vous plaît, mademoiselle, le 565-34. » Ayant obtenu le numéro, il dit d'une voix lente en détachant chacune des syllabes. « Allô, Je suis rue Chateaubriand.
C'est toi, Achille ?
Oui, c'est moi, le patron.
Écoute-moi bien, Achille.
Il faut quitter l'appartement.
Allô ?
Oui, tout de suite.
La police doit venir d'ici quelques minutes.
Mais non, ne t'effare pas.
Tu as le temps. Seulement fais ce que je te dis.
Ta valise est toujours prête ?
Parfait.
Et l'un des casiers restait vide, comme je te l'ai dit ?
Parfait.
Eh bien, va dans ma chambre.
Mets-toi face à la cheminée.
De la main gauche, appuie sur la petite rosace sculptée qui orne la plaque de marbre.
Sur le devant, au milieu.
Et de la main droite, sur le dessus de la cheminée.
Tu trouveras là comme un tiroir, et dans ce tiroir, deux cassettes.
Fais attention.
L'une d'elles contient tous nos papiers, l'autre des billets de banque et des bijoux.
Tu les mettras toutes les deux dans le casier vide de la valise.
Tu prendras la valise à la main et tu viendras à pied très vite.
Jusqu'au coin de l'avenue Victor Hugo et de l'avenue de Montespan.
L'auto est là, avec Victoire.
Je vous y rejoindrai.
Quoi ?
Mes vêtements ? Mes bibelots ? Laisse donc tout ça. Et file au plus vite.
À tout à l'heure.
Tranquillement, Lupin repoussa le téléphone, puis il saisit Dobrec par le bras, le fit asseoir sur une chaise voisine de la sienne et lui dit
« Et maintenant, écoute-moi. »
« Oh oh ! » ricana le député. « On se tutoie. »«
Oui, je te le permets, »
déclara Lupin. Et comme Dobrec, dont il n'avait pas lâché le bras, se dégageait avec une certaine méfiance, il prononça
« Non, n'aie pas peur. On ne se battra pas.
Nous n'avons rien à gagner, ni l'un ni l'autre, à nous démolir. »
Un coup de couteau ?
Pourquoi faire ?
Non.
Des mots, rien que des mots,
mais des mots qui portent.
Voici les miens.
Ils sont catégoriques.
Réponds de même, sans réfléchir. Ça vaut mieux.
L'enfant ?
Je l'ai. Rends-le.
Non.
Madame Mergy se tuera.
Non.
Je te dis que si. J'affirme que non.
Cependant, elle l'a déjà tenté.
C'est justement pour cela qu'elle ne le tentera plus.
Alors ?
Non.
Lupin reprit après un instant.
Je m'y attendais.
De même, je pensais bien, en venant ici, que tu ne couperais pas dans l'histoire du docteur Verne et qu'il me faudrait employer d'autres moyens.
Ceux de Lupin.
Tu l'as dit.
J'ai été résolu à me démasquer.
Tu l'as fait toi-même.
Bravo.
Mais ça ne change rien à mes projets.
Parle.
Lupin sortit d'un carnet une double feuille de papier ministre qu'il déplia et tendit à Dobrec en disant « Voici l'inventaire exact et détaillé avec numéro d'ordre, des objets qui furent enlevés par mes amis et moi dans ta villa Marie-Thérèse sur les bords du lac d'Anguin. Il y a, comme tu vois, 113 numéros. Sur ces 113 objets, il y en a 68, ceux dont les numéros sont marqués d'une croix rouge qui ont été vendus et expédiés en Amérique. Les autres, au nombre par conséquent de 45, restent en ma possession jusqu'à nouvel ordre. Ce sont d'ailleurs les plus beaux. Je te les offre contre la remise immédiate de l'enfant.
Dobrec ne put retenir un mouvement de surprise.
« Oh oh ! Comme il faut que tu y tiennes !»«
Infiniment, » dit Lupin, « car je suis persuadé qu'une absence plus longue de son fils, c'est la mort pour Madame Mergy. »
« Et cela te bouleverse, Don Juan ?»«
Quoi ?»
Lupin se planta devant lui et répéta.
« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?»«
Rien, rien. »«
Une idée. Clarisse Mergy est encore jeune, jolie. »
Lupin haussa les épaules.
« Brute, va !»
mâchonna-t-il. « Tu t'imagines que tout le monde est comme toi, sans cœur et sans pitié. Ça te suffoque, hein ? Qu'un bandit de mon espèce perde son temps à jouer les Don Quichotte. Et tu te demandes quel sale motif peut bien me pousser. Cherche pas. C'est en dehors de ta compétence, mon bonhomme. Et réponds-moi plutôt, acceptes-tu ?
C'est donc sérieux ?
Interrogea Dobrec, que le mépris de Lupin ne semblait guère émouvoir.
« Absolument !»
Les 45 objets sont dans un hangar dont je te donnerai l'adresse. Ils te seront délivrés, si tu t'y présentes ce soir, à 9h avec l'enfant. »
La réponse de Dobrec ne faisait pas de doute.
L'enlèvement du petit Jacques n'avait été pour lui qu'un moyen d'agir sur Clarisse Mergy, et peut-être aussi un avertissement qu'elle eût à cesser la guerre entreprise. Mais la menace d'un suicide devait nécessairement montrer à Dobrec qu'il faisait fausse route. En ce cas, pourquoi refuser le marché si avantageux que lui proposait Arsène Lupin ?
J'accepte.
Voici l'adresse de mon hangar, 95 rue Charles Lafitte à Neuilly. Tu n'auras qu'à sonner.
Si j'envoie le secrétaire général Prabille à ma place ?
Si tu envoies Prabille, déclara Lupin, l'endroit est disposé de telle sorte que je le verrai venir et que j'aurai le temps de me sauver. Non sans avoir mis le feu aux bottes de foin et de paille qui entourent et qui dissimulent tes consoles. tes pendules, tes vierges gothiques. Mais ton hangar sera brûlé. Ça m'est égal. La police le surveille déjà. En tout état de cause, je le quitte. Et qui m'assure que ce n'est pas un piège ? Commence par prendre livraison de la marchandise et ne rends l'enfant qu'après. J'ai confiance, moi.
Allons, dit Dobrek, tu as tout prévu.
Soit, tu auras le gosse. La belle Clarisse vivra et nous serons tous heureux. Maintenant, si j'ai un conseil à te donner, c'est de déguerpir, et presto.
Pas encore.
Hein ?
J'ai dit, pas encore.
Mais tu es fou, Praville est en route.
Il attendra, je n'ai pas fini.
Comment ? Comment ? Qu'est-ce qu'il te faut encore ? Clarisse aura son moutard, ça ne te suffit pas ?
Non.
Pourquoi ? Il reste un autre fils.
Gilbert ?
Oui. Eh bien, je te demande de sauver Gilbert.
Qu'est-ce que tu dis, moi ? Sauver Gilbert ?
Tu le peux. Il te suffit de quelques démarches.
Dobrek, qui jusqu'ici avait gardé tout son calme, s'emporta brusquement et frappant du poing.
Non, ça, jamais. Ne compte pas sur moi.
Ah non, ce serait trop idiot.
Il s'était mis à marcher avec une agitation extrême, et de son pas si bizarre, qui le balançait de droite et de gauche sur chacune de ses jambes, comme une bête sauvage, un ours à l'allure inhabile et lourde. Et la voix rauque, le masque convulsé, il s'écria
« Qu'elle vienne ici, qu'elle vienne implorer la grâce de son fils !»
Mais qu'elle vienne sans armes et sans dessein criminel comme la dernière fois. Qu'elle vienne en suppliante, en femme domptée, soumise, et qui comprend et qui accepte. Alors on verra.
Gilbert,
la condamnation de Gilbert, l'échafaud.
Mais toute ma force est là.
Quoi ?
Voilà plus de 20 ans que j'attends mon heure.
Et c'est quand elle sonne, quand le hasard m'apporte cette chance inespérée, quand je vais connaître enfin la joie de la revanche complète. Et quelle revanche ? C'est maintenant que je renoncerai à cela, à cette chose que je poursuis depuis 20 ans. Je sauverai Gilbert, moi, pour rien ? Pour l'honneur, moi, Dobrek ?
Ah non, tu ne m'as pas regardé.
Il riait d'un rire abominable et féroce. Visiblement, il apercevait en face de lui, à portée de sa main, la proie qu'il pourchassait depuis si longtemps.
Et Lupin aussi évoqua Clarisse, telle qu'il l'avait vue quelques jours auparavant, défaillante, vaincue déjà, fatalement conquise, puisque toutes les forces ennemies se liguaient contre elle. Se contenant, il dit « Écoute-moi ». Et comme Dobrek, impatienté, se dérobait, il le prit par les deux épaules avec cette puissance surhumaine que Dobrek connaissait pour l'avoir éprouvée dans la baignoire du vaudeville. Et l'immobilisant, il articula un dernier mot. « Tu perds ton latin, » bougonna le député. « Un dernier mot. Écoute, Dobrek, oublie Madame Mergy. Renonce à toutes les bêtises et à toutes les imprudences que ton amour et que tes passions te font commettre. Écarte tout cela. « Et ne pense qu'à ton intérêt. »«
Mon intérêt, »
plaisanta Dobrek. « Il est toujours d'accord avec mon amour-propre et avec ce que tu appelles mes passions. »« Jusqu'ici, peut-être. »« Mais plus maintenant. »« Plus maintenant que je suis dans l'affaire. »« Il y a là un élément nouveau que tu négliges. »« C'est un tort. »« Gilbert est mon complice. »« Gilbert est mon ami. »« Il faut que Gilbert soit sauvé de l'échafaud. »« Fais cela. »« Use de ton influence. » Et je te jure, tu entends, je te jure que nous te laisserons tranquille. Le salut de Gilbert, voilà tout. Plus de lutte à soutenir contre Madame Mergy, contre moi, plus de pièges. Tu seras maître de te conduire à ta guise. Le salut de Gilbert, Dobrek, sinon...
Sinon ?
Sinon la guerre implacable, c'est-à-dire pour toi la défaite certaine, ce qui signifie... Ce qui signifie que je reprendrai la liste des 27.
Ah, tu crois ?
Je le jure.
Ce que Praville et toute sa clique, ce que Clarisse Mergy, ce que personne n'a pu faire, tu le feras, toi.
Je le ferai.
Et pourquoi ?
En l'honneur de quel saint réussiras-tu où tout le monde a échoué ? Il y a donc une raison ?
Oui.
Laquelle ? Je m'appelle Arsène Lupin. Il avait lâché Dobrek, mais il le maintint quelque temps sous son regard impérieux, et sous la domination de sa volonté. À la fin, Dobrek se redressa, lui tapota l'épaule à petits coups secs, et avec le même calme, la même obstination rageuse prononça « Moi, je m'appelle Dobrek. Toute ma vie n'est qu'une bataille acharnée, une suite de catastrophes et de débâcles, où j'ai dépensé tant d'énergie que la victoire est venue, la victoire complète, définitive, insolente, irrémédiable. J'ai contre moi toute la police, tout le gouvernement, toute la France, le monde entier. Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche d'avoir contre moi, par-dessus le marché, M. Arsène Lupin ? J'irai plus loin. Plus mes ennemis sont nombreux et habiles, et plus cela m'oblige à jouer serré. Et c'est pourquoi, mon excellent monsieur, au lieu de vous faire arrêter, comme je l'aurais pu, oui, comme je l'aurais pu, et en toute facilité, je vous laisse le champ libre. Et vous rappelle charitablement qu'avant 3 minutes, il faut me débarrasser le plancher. Donc c'est non, c'est non. Tu ne feras rien pour Gilbert. Si, je continuerai à faire ce que je fais depuis son arrestation, c'est-à-dire à peser indirectement sur le ministre de la Justice, pour que le procès soit mené le plus activement possible et dans le sens que je désire. Comment ? S'écria Lupin, hors de lui. C'est à cause de toi, c'est pour toi. C'est pour moi, Dobrec, mon Dieu, oui. J'ai un atout, la tête du fils, je le joue. Quand j'aurai obtenu une bonne petite condamnation à mort contre Gilbert, quand les jours passeront, et que la grâce du jeune homme sera par mes bons offices rejetée, tu peux être sûr, monsieur Lupin, que la maman ne verra plus du tout d'objection à s'appeler madame Alexis Dobrec, et à me donner des gages irrécusables et immédiats de sa bonne volonté. Cette heureuse issue est fatale, que tu le veuilles ou non, c'est couru d'avance. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est de te prendre comme témoin le jour de mon mariage et de t'inviter au lunch. Cela te va-t-il ? Non, tu persistes dans tes noirs desseins. Eh bien, bonne chance, tends tes pièges, jette tes filets, fourbis tes armes, et potasse le manuel du parfait cambrioleur de papier pelure. Tu en auras besoin. Sur ce, bonsoir. Les règles de l'hospitalité écossaise m'ordonnent de te mettre à la porte. File. Lupin demeura silencieux assez longtemps. Les yeux fixés sur Dobrec, il semblait mesurer la taille de son adversaire, jauger son poids, estimer sa force physique et discuter, en fin de compte, à quel endroit précis il allait l'attaquer. Dobrec serra les poings et en lui-même prépara le système de défense qu'il opposerait à cette attaque. Une demi-heure s'écoula. Lupin porta la main à son gousset. Dobrec en fit autant et saisit la crosse de son revolver. Quelques secondes encore. Froidement, Lupin sortit une bonbonnière d'or, l'ouvrit et l'attendit à Dobrec. « Une pastille. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'autre étonné. « Des pastilles Giraudel. Pourquoi faire ?»« Pour le rhume que tu vas prendre. » Et profitant du léger désarroi où cette boutade laissait Dobrec, il saisit rapidement son chapeau et s'esquiva. Évidemment, se disait-il en traversant le vestibule, je suis battu à plate couture, mais tout de même. Cette petite plaisanterie de commis-voyageur avait dans l'espèce quelque chose de nouveau. S'attendre à un pruneau et recevoir une pastille Giraudel, il y a là comme une déception. Il en est resté baba, le vieux chimpanzé. Comme il refermait la grille, une automobile s'arrêta et un homme descendit rapidement suivi de plusieurs autres. Lupin reconnut Prasville. « Monsieur le secrétaire général, murmura-t-il, je vous salue. J'ai idée qu'un jour le destin nous mettra en face l'un de l'autre, et je le regrette pour vous, car vous ne m'inspirez qu'une médiocre estime, et vous passerez un sale quart d'heure. Aujourd'hui, si je n'étais pas pressé, j'attendrai votre départ et je suivrai Dobrec pour savoir à qui il a confié l'enfant qu'il va me rendre, mais je suis pressé. En outre, rien ne m'assure que Dobrec ne va pas agir par téléphone. » Donc, ne nous gaspillons pas en vains efforts, et rejoignons Victoire, Achille et notre précieuse valise. 2 heures après, posté dans son hangar de Neuilly, toutes ses mesures prises, Lupin voyait Dobrec qui débouchait d'une rue voisine et s'approchait avec méfiance. Lupin ouvrit lui-même la grande porte. « Vos affaires sont là, monsieur le député, dit-il. Vous pouvez vous rendre compte. Il y a un loueur de voitures à côté. » « Vous n'avez qu'à demander un camion et des hommes. »« Où est l'enfant ?» Dobrec examina d'abord les objets, puis il conduisit Lupin jusqu'à l'avenue de Neuilly, où deux vieilles dames, masquées par des voiles, stationnaient avec le petit Jacques. À son tour, Lupin emmena l'enfant jusqu'à son automobile où l'attendait Victoire. Tout cela fut exécuté rapidement, sans paroles inutiles, et comme si les rôles eussent été appris, les allées et venues réglées d'avance, ainsi que des entrées et des sorties de théâtre. À 10 heures du soir, Lupin, selon sa promesse, rendait le petit Jacques à sa mère. Mais on dut appeler le docteur en hâte, tellement l'enfant, frappé par tous ces événements, montrait d'agitation et d'effroi. Il lui fallut plus de 2 semaines pour se rétablir et pour supporter les fatigues d'un déplacement que Lupin jugeait nécessaire. C'est à peine, d'ailleurs, si Madame Hergy elle-même fut rétablie au moment de ce départ qui eut lieu la nuit, avec toutes les précautions possibles et sous la direction de Lupin. Il conduisit la mère et le fils sur une petite plage bretonne et les confia aux soins et à la vigilance de Victoire. « Enfin, se dit-il quand il les eut installés, il n'y a plus personne entre le Daubrec et moi. Il ne peut plus rien contre Madame Mergy et contre le gosse. Et elle-même ne risque plus, par son intervention, de faire dévier la lutte. Fichtre, nous avons commis assez de bêtises. 1. J'ai dû me découvrir vis-à-vis de Daubrec. 2. J'ai dû lâcher ma part du mobilier d'Anguin. Certes, je la reprendrai un jour ou l'autre. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, mais tout de même, nous n'avançons pas. Et d'ici nuitaine, Gilbert et Baucheret passent en cour d'assises. » Ce à quoi, dans l'aventure, Lupin était le plus sensible, c'était à la dénonciation de Daubrec concernant son domicile de la rue Chateaubriand. La police avait envahi ce domicile. L'identité de Lupin et de Michel Beaumont avait été reconnue, certains papiers découverts, et Lupin, tout en poursuivant son but, tout en menant de front certaines entreprises déjà commencées, tout en évitant les recherches, plus pressantes que jamais, de la police, devait procéder sur d'autres bases à une réorganisation complète de ses affaires. Aussi sa rage contre Daubrec croissait-elle en proportion des ennuis que lui causait le député. Il n'avait plus qu'un désir, l'empocher, comme il disait, le tenir à sa disposition et, de gré ou de force, lui extraire son secret. Il rêvait de tortures propres à délier la langue de l'homme le plus taciturne. Brodequins, chevalets, tenailles rougies au feu, planches hérissées de pointes. Il lui semblait que l'ennemi était digne de tous les supplices et que le but à atteindre excusait tous les moyens. « Ah !» se disait-il, « une bonne chambre ardente avec quelques bourreaux qui n'auraient pas froid aux yeux en ferait de la belle besogne. » Chaque après-midi, Grognard et le Balu étudiaient le parcours que Daubrec suivait entre le square Lamartine, la chambre des députés et le cercle dont il faisait partie. On devait choisir la rue la plus déserte, l'heure la plus propice et un soir le pousser dans une automobile. De son côté, Lupin aménageait non loin de Paris, au milieu d'un grand jardin, une vieille bâtisse qui offrait toutes les conditions nécessaires de sécurité et d'isolement et qu'il appelait la cage du singe. Malheureusement, Daubrec devait se méfier, car chaque fois, pour ainsi dire, il changeait d'itinéraire ou bien prenait le métro, ou bien montait en tramway, et la cage demeurait vide. Lupin combina un autre plan. Il fit venir de Marseille un de ses affidés, le père Brin de Bois, honorable épicier en retraite, qui précisément habitait dans la circonscription électorale de Daubrec et s'occupait de politique. De Marseille, le père Brin de Bois annonça sa visite à Daubrec, qui reçut avec empressement cet électeur considérable. Un dîner fut projeté pour la semaine suivante. L'électeur proposa un petit restaurant de la rive gauche, où, disait-il, on mangeait à merveille. Daubrec accepta. C'est ce que voulait Lupin. Le propriétaire de ce restaurant comptait au nombre de ses amis. Dès lors, le coup qui devait avoir lieu le jeudi suivant ne pouvait manquer de réussir. Sur ces entrefaites, le lundi de la même semaine, commença le procès de Gilbert et de Baucheret. On se le rappelle, et les débats sont trop récents pour que je remémore la façon vraiment incompréhensible et partiale dont le président des assises conduisit son interrogatoire à l'encontre de Gilbert. La chose fut remarquée et jugée sévèrement. Lupin reconnut là l'influence détestable de Daubrec. L'attitude des deux accusés fut très différente. Baucheret, sombre, taciturne, l'expression âpre, avoua cyniquement, en phrases brèves, ironiques, presque provocantes, les crimes qu'il avait commis autrefois. Mais par une contradiction inexplicable pour tout le monde, sauf pour Lupin, il se défendit de toute participation à l'assassinat du domestique Léonard et chargea violemment Gilbert. Il voulait ainsi, en liant son sort à celui de Gilbert, obligeait Lupin à prendre pour ses deux complices les mêmes mesures de délivrance. Quant à Gilbert, dont le visage franc, dont les yeux rêveurs et mélancoliques conquirent toutes les sympathies, il ne sut pas se garer des pièges du président, ni rétorquer les mensonges de Vaucheray. Il pleurait, parlait trop, ou ne parlait pas quand il l'eût fallu. En outre, son avocat, un des maîtres du barreau, malade au dernier moment, et là encore Lupin voulut voir la main de Dobrec, fut remplacé par un secrétaire, lequel plaida mal, prit l'affaire à contre-sens, indisposa le jury, et ne put effacer l'impression qu'avait produite le réquisitoire de l'avocat général et la plaidoirie de l'avocat de Vaucheray. Lupin, qui eut l'audace inconcevable d'assister à la dernière journée des débats, le jeudi, ne douta pas du résultat. La double condamnation était certaine. Elle était certaine parce que tous les efforts de la justice, corroborant ainsi la tactique de Vaucheray, avaient tendu à solidariser étroitement les deux accusés. Elle était certaine, ensuite et surtout, parce qu'il s'agissait des deux complices de Lupin. Depuis l'ouverture de l'instruction jusqu'au prononcé du jugement, et bien que la justice, faute de preuves suffisantes, et aussi pour ne point disséminer ses efforts, n'eût pas voulu impliquer Lupin dans l'affaire, tout le procès fut dirigé contre Lupin. C'était lui l'adversaire que l'on voulait atteindre, lui le chef qu'il fallait punir en la personne de ses amis, lui le bandit célèbre et sympathique dont on devait détruire le prestige aux yeux de la foule. Gilbert et Vaucheray exécutés, l'auréole de Lupin s'évanouissait, la légende prenait fin. Lupin, Lupin, Arsène Lupin, on n'entendit que ce nom durant les 4 jours. L'avocat général, le président, les jurés, les avocats, les témoins n'avaient pas d'autres mots à la bouche. À tout instant, on invoquait Lupin pour le maudire, pour le bafouer, pour l'outrager, pour le rendre responsable de toutes les fautes commises. On eût dit que Gilbert et Vaucheray ne figuraient que comme comparses, et qu'on faisait son procès à lui, le sieur Lupin, Lupin cambrioleur, chef de bande, faussaire, incendiaire, récidiviste, ancien forçat, Lupin assassin, Lupin souillé par le sang de sa victime, Lupin qui restait lâchement dans l'ombre après avoir poussé ses amis jusqu'au pied de l'échafaud. « Ah, ils savent bien ce qu'ils font, » murmura-t-il. « C'est ma dette que va payer mon pauvre grand gamin Gilbert. C'est moi, le vrai coupable. » Et le drame se déroula, effrayant. À 7 heures du soir, après une longue délibération, les jurés revinrent en séance et le président du jury donna lecture des réponses aux questions posées par la cour. C'était oui, sur tous les points. C'était la culpabilité et le rejet des circonstances atténuantes. On fit rentrer les deux accusés. Debout, chancelants et blêmes, ils écoutèrent la sentence de mort. Et dans le grand silence solennel, où l'anxiété du public se mêlait à la pitié, le président des assises demanda « Vous n'avez rien à ajouter, Vaucheray ?»«
Rien, monsieur le président. Du moment que mon camarade est condamné comme moi, je suis tranquille. Nous sommes sur le même pied tous les deux. Faudra donc que le patron trouve un truc pour nous sauver tous les deux. »
« Le patron ?»«
Oui, Arsène Lupin. »
Il y eut un rire parmi la foule. Le président reprit « Et vous, Gilbert ?» Des larmes roulaient sur les joues du malheureux. Il balbutia quelques phrases inintelligibles. Mais comme le président répétait sa question, il parvint à se dominer et répondit d'une voix tremblante. « J'ai à dire, monsieur le président, que je suis coupable de bien des choses, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de mal, et je m'en repens du fond du cœur. Mais tout de même, pas ça. Non, je n'ai pas tué. Je n'ai jamais tué. Et je ne veux pas mourir. Ce serait trop horrible. » Il vacilla, soutenu par les gardes, et on l'entendit proférer, comme un enfant qui appelle au secours, « Patron, sauvez-moi, sauvez-moi, je ne veux pas mourir. » Alors, dans la foule, au milieu de l'émotion de tous, une voix s'éleva qui domina le bruit. « Aie pas peur, petit, le patron est là. » Ce fut un tumulte, il y eut des bousculades, les gardes municipaux et les agents envahirent la salle, et l'on empoigna un gros homme au visage rubicon que les assistants désignaient comme l'auteur de cette apostrophe et qui se débattait à coups de poing et à coups de pied. Interrogé sur l'heure, il donna son nom, Philippe Banel, employé aux pompes funèbres, et déclara qu'un de ses voisins lui avait offert un billet de 100 francs, s'il consentait à acheter, au moment voulu, une phrase que ce voisin écrivit sur un papier de carnet.
Pouvait-il refuser? Comme preuve, il montra le billet de 100 francs et la page de carnet. On relâcha Philippe Banel. Pendant ce temps, Lupin, qui, bien entendu, avait puissamment contribué à l'arrestation du personnage et l'avait remis entre les mains des gardes, Lupin sortait du palais, le cœur étreint d'angoisse. Sur le quai, il trouva son automobile. Il s'y jeta, désespéré, assailli par un tel chagrin qu'il lui fallut un effort pour retenir ses larmes. L'appel de Gilbert, sa voix éperdue de détresse, sa figure décomposée, sa silhouette chancelante, tout cela hantait son cerveau, et lui semblait que jamais plus il ne pourrait oublier, ne fût-ce qu'une seconde, de pareilles impressions. Au nouveau domicile qu'il avait choisi parmi ses différentes demeures et qui occupait un des angles de la place Clichy, il y attendit Grognard et le balu avec lesquels il devait procéder ce soir-là à l'enlèvement de Daubrecq. Mais il n'avait pas ouvert la porte de son appartement qu'un cri lui échappa. Clarisse était devant lui. Clarisse, revenue de Bretagne à l'heure même du verdict. Tout de suite, à son attitude, à sa pâleur, il comprit qu'elle savait. Et tout de suite, en face d'elle, reprenant courage, sans lui laisser le temps de parler, il s'exclama. « Eh bien oui, oui, mais cela n'a pas d'importance, c'était prévu. Nous ne pouvions pas l'empêcher. Ce qu'il faut, c'est conjurer le mal. Et cette nuit, vous entendez, cette nuit, ça sera chose faite. » Immobile, effrayante de douleur, elle balbutia. « Cette nuit ? Oui, j'ai tout préparé. Dans 2 heures, Daubrecq sera en ma possession. Cette nuit, quels que soient les moyens que je doive employer, il parlera. Vous croyez ? » dit-elle faiblement, comme si déjà un peu d'espoir eût éclairé son visage. « Il parlera. J'aurai son secret. Je lui arracherai la liste des 27. Et cette liste, ça sera la délivrance de votre fils. « Trop tard, » murmura Clarisse. « Trop tard, pourquoi ? Pensez-vous qu'en échange d'un tel document, je n'obtiendrai pas l'évasion simulée de Gilbert ? Mais dans 3 jours, Gilbert sera libre. Dans 3 jours... » Un coup de sonnette l'interrompit. « Tenez, voilà nos amis, ayez confiance. Rappelez-vous que je tiens mes promesses. Je vous ai rendu votre petit Jacques, je vous rendrai Gilbert. » Il alla au-devant de Grognard et de Lebalu et leur dit « Tout est prêt. Le père Brindebois est au restaurant. Vite, dépêchons-nous. Pas la peine, patron, » riposta Lebalu. « Comment ? Quoi ? Il y a du nouveau. Du nouveau, parle. Daubrecq a disparu. Hein ? Qu'est-ce que tu chantes ? Daubrecq, disparu ? Oui, enlevé de son hôtel, en plein jour. Tonnerre ! Et par qui ? On ne sait pas. 4 individus. Il y a eu des coups de feu. La police est sur place. Praville dirige les recherches. » Lupin ne bougea pas. Il regarda Clarisse Mergy, écroulée sur un fauteuil. Lui-même dut s'appuyer. Daubrecq enlevé, c'était la dernière chance qui s'évanouissait.